With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bienvenue dans On the Verge, le podcast sur la sexualité masculine. Pour ce 17e épisode, c'est Alban que vous allez rencontrer. Alban a 26 ans. Nous avons une discussion très sincère et pudique sur la sexualité d'Alban, sur ses fantasmes un peu, comme il dit, hors cadre, de sa problématique à faire confiance, à se faire confiance, l'autodestruction, la sexualité qui l'attire et la même qui lui fait peur et qui le laisse parfois de marbre. Il y a une vraie dichotomie entre ses émotions et ce qu'il ressent. Alban est en pleine quête de soi. C'est un épisode assez introspectif. Je tenais à vous préciser que c'est un épisode que j'ai enregistré en confinement, donc à distance avec Alban, ce qui est un petit peu différent de d'habitude. Je vous espère, vous et vos proches en forme, que vous tenez bon, et je vous dis à très vite et une excellente écoute. Salut Alban.
Salut.
Ça va?
Ça va et toi?
Ouais, Alban, c'est très, t'étais vraiment le first one de ces épisodes confinés. Alors je ne sais pas si on en a beaucoup, mais en tout cas merci de te prêter au jeu parce que c'est un exercice qui est un peu particulier pour moi, mais aussi évidemment pour toi puisqu'on ne se voit pas, on est à des centaines de kilomètres l'un de l'autre et tu vas tout me dire sans me voir et sans trinquer avec moi. Alban, t'as 26 ans. Yes. Tu as rempli le petit formulaire qui m'aide, hein, vraiment, on ne va pas se mentir, hein, pour la gestion de tout ça. Donc ça, c'est top. Et ça fait... Alban, je vais te poser la toute première question que je pose à tous mes invités que tu connais sûrement. C'est quoi ton tout premier souvenir qui est lié à ta sexualité?
Alors, je me suis posé la question un petit peu, mais c'est assez flou parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte il y a quelques années, en fait, quel était mon premier souvenir sexuel. Puisque c'était quand j'étais, tu vois, CE2, CM2, ces années-là. Et en fait, c'est quand je l'ai interprété en fait récemment, du coup, que c'est quand j'allais voir des copains et que on se retrouvait, tu vois, en tête à tête. Et il y avait ce petit frisson, en fait. Enfin, il y avait quelque chose comme un frisson en dans le ventre, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'il y a quelques années, en fait, que c'était ça, en fait, et que je l'ai pas écouté à cette époque-là. J'étais trop petit et je l'ai pas écouté pendant longtemps. Mais c'était, je pense, c'est là que j'ai eu mon premier frisson, quoi, le premier truc un peu.
T'avais quel âge à peu près?
Bah, j'avais 8-9 ans, du coup.
D'accord. Et c'était les garçons tout de suite.
Ouais. Alors que à côté de ça, j'avais. J'avais des copines, j'adorais avoir des copines, surtout de la maternelle au CP, où j'avais tendance à aller collectionner les filles.
D'accord, j'avais des filles
amoureuses. Comme un petit garçon tout content, je sais pas ce que j'avais dans la tête, mais j'aimais bien, j'étais fier d'avoir trois filles que j'aimais, dont je me vantais d'être amoureux.
T'avais ton petit harem à l'école.
Comment ?
T'avais ton petit harem à l'école.
C'est ça, ouais. En maternelle, j'avais mon petit harem.
Et on parlait de sexualité librement chez toi ?
Non, pas vraiment. C'est pas... Non, c'est la communication dans la famille, c'est plutôt compliqué. Donc, c'est pas... les émotions, je suis un peu le premier à parler plus de mes émotions. C'est un peu nouveau pour la famille. Donc non, on n'en parlait pas. Et j'en ai parlé ni avec ma famille avant très tard. Et encore aujourd'hui, on n'en parle pas vraiment, quoi. Ça reste, c'est un peu des, ouais, des sous-entendus, des...
Ok. Si tu avais justement des questions comme ça, parce que si à 8-9 ans, tu sentais, même si tu ne l'avais pas encore... nommé, identifié, mais c'était les garçons qui t'intéressaient. Comment ça s'est passé justement à la préadolescence ou à l'adolescence quand les hormones font leur job et qu'on commence un peu à comprendre qu'il va se passer quelque chose au niveau de sa puberté.
Ouais, bah ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué parce que donc j'avais pas écouté ce frisson que j'avais pour les garçons et je l'avais pas compris en fait. J'avais pas compris ce que c'était. Et donc, collège, vraiment la préadolescence, j'avais pas d'attirance en fait. Enfin, je me voyais pas du tout avec les garçons. J'avais pas spécialement de copines, j'étais pas spécialement attiré par les femmes, mais je cherchais. Je me disais, ah, quelle fille pourrait être avec moi, avec quelle fille faudrait que je me mette en couple pour faire bien en fait. C'est un peu pour être normal. Enfin, au collège, c'est l'âge où les gens commencent à se charrier sur. Et toi, avec qui tu vas être, à qui tu vas, je sais pas si tu connais cette expression, à qui tu vas faire un piou.
Ah bien sûr un piou. Ça fait si longtemps que j'avais pas entendu le mot piou, mais bien sûr, j'adore ce mot. Oh, on le dit plus assez.
Et du coup, c'était plus à chercher une fille qui me correspondrait plutôt que vraiment essayer de comprendre ce que mon corps et mon cerveau essayaient de dire en fait.
Oui, tu rentrais un peu dans le moule social de l'adolescent, ouais. Entre guillemets lambda, qui répond à des normes imposées. D'accord, donc tu cherchais la jeune femme qui te ferait un piou.
Ouais, voilà. Ce qui est arrivé hein, au collège, du coup, c'était un peu le passage obligatoire. Tout le monde devait avoir fait un piou à quelqu'un, quoi. Et du coup, même à l'époque, il y avait un garçon qui était attiré par moi et qui me faisait... des avances, enfin qui voulait être en couple avec moi, et pour moi c'était même pas envisageable, enfin ça me paraissait pas logique en fait, enfin.
Tu avais déjà entendu parler de l'homosexualité, tu savais ce que c'était, tu l'avais identifié autour de toi?
Pas vraiment, je crois. Je me souviens pas en avoir entendu parler, ou enfin peut-être rapidement. Je pense que je savais que ça existait, mais...
Mais c'était loin de toi, en tout cas.
Mais on a... Puis, tu sais, au collège, peut-être pas avant le collège, mais ça peut commencer fin du primaire, on commence à en parler, on commence à tester un peu nos masculinités, à... Comment dire, puis à ridiculiser les masculinités, à féminiser, etc., à rire de la féminité chez les garçons, donc ça vient assez vite de parler... De dire des mots comme PD, pédale et compagnie, ça vient
Coucou
très vite.
La masculinité toxique.
J'ose pas imaginer ce que c'est aujourd'hui.
D'accord, donc tu as tes premiers flirts adolescents au collège.
Ouais.
Et toi, ton rapport à ton corps à ce moment-là, il est comment? C'est-à-dire que là, tu arrives sur les âges où toute la machine se met en place, le corps grandit, pousse, etc. Comment ça se passe?
Je pense que j'étais assez déconnecté de mon corps parce que encore aujourd'hui je suis assez déconnecté en fait de mes émotions et de mes sensations physiques. Parce qu'il y a eu le décès de ma mère quand j'avais 7-8 ans. Et depuis ça, en fait, ça m'a vraiment déconnecté de mes sensations en fait. Donc j'étais assez déconnecté de mon corps. Pour moi, c'était plus un objet qu'autre chose. Enfin, je sais pas. Et le début, comment dire, le début de l'adolescence, où on commence à parler de masturbation, etc. C'est marrant parce que ça commence... je vais y aller franco sur la masturbation, comme ça c'est fait.
De toute façon, on est un petit peu là pour ça. Hein, si
on est là pour ça. Ça a commencé par des frottements, tu vois, sur le lit, sur les draps, juste des frottements. Et puis tu te rends compte d'un coup que ça fait du bien de se frotter sur un truc. Et après, il y a l'école où on dit... Il a fallu que ce soit à l'école qu'on me dise « Bah en fait, il suffit de le faire avec ta main, en fait.
» T'avais pas pensé à ça tout seul?
J'étais là, mais « Ah! Ah ouais! »
Oh, toujours la bonne idée. Oh, merci du tips.
Ouais. Donc,
voilà. C'est quoi, là? T'es au collège, à peu près, c'est ça?
Ouais. Et puis... Et au début, ouais, je devais être en cinquième, quatrième. Et au début, j'avais pas spécialement, j'imaginais pas spécialement des choses en fait. C'était juste la sensation physique, le frottement au début. Il s'agissait que de ça. Et en fait, l'imagination, elle vient petit à petit. En fait, c'était plus vraiment de l'imagination, parce que Je pensais pas aux garçons ni aux filles, pas spécialement. Et petit à petit, en fait, je me suis construit un imaginaire autour de. De ma masturbation. Et vraiment, dans cet imaginaire, dans ces fantasmes, j'étais. Il s'agissait plus de soumission, en fait. C'est comme si la soumission, le rapport de domination, était venu avant, en fait.
Avant de genrer un homme, voilà. Une femme. Et justement, tu te nourrissais de quoi par rapport à ça, tu le sais ?
Je ne sais pas d'où ça venait, mais en tout cas, j'avais des références. J'avais des images qui venaient, des films, tu vois, des scènes... des scènes de torture ou de transformation, tu vois, des choses comme ça. C'est très bizarre, c'est très spécial de parler de
non,
ça.
Non, mais attends, il n'y a pas une sexualité, il y a des sexualités plurielles. Donc, mais justement, ce que je veux comprendre, c'est comment tu arrives à cet âge-là, adolescent, où effectivement tu cristallises un peu tes désirs et tu les nourris avec les supports que tu peux avoir à ces âges-là. Donc, même, tu vois, si chez toi, en plus, c'était un peu compliqué d'en parler, ou en tout cas que c'était pas un sujet très, très au centre de vos discussions. Et bon, voilà, après, chaque famille fait comme elle peut. Mais du coup, tu te nourrissais comment ? Est-ce qu'il y avait des lectures ? Est-ce que c'était effectivement des scènes de films, entre guillemets, lambda, que tu arrivais à érotiser pour toi ? Est-ce qu'il y avait, comment ça t'arrivait un petit peu à nourrir ça ? Et est-ce que tu sais aujourd'hui, parce que là, c'est vrai que c'est intéressant de savoir, est-ce que tu sais aujourd'hui pourquoi la soumission, la domination et la transformation, on en reparlera un petit peu après, mais étaient des vecteurs d'excitation.
Non, aujourd'hui encore, c'est quelque chose que j'analyse, enfin c'est quelque chose sur lequel je travaille, parce que je pense que ça fait partie d'un tout, en fait, d'un tout de ma psyché, dont je parle avec une psychologue. Mais je sais toujours pas vraiment d'où ça vient. C'est peut-être, ça peut être besoin d'attention ou besoin ou vraiment envie de. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de besoin de quitter la réalité, en fait, besoin de disparaître, après... tu vois, de devenir quelque chose d'autre et du coup de plus être dans ma
pas
tête.
Pas quelqu'un
et dans mon
d'autre,
corps.
Hein. Tu dis pas quelqu'un, tu dis quelque chose d'autre.
Ça peut être quelqu'un ou quelque chose, ouais.
D'accord. Parce que tu as vécu un traumatisme qui est effectivement très très douloureux, c'est la perte d'un parent et de la mère à un âge où tu commences juste à 7 ans à sortir de la relation fusionnelle avec sa mère. Donc ça doit être effectivement une trace indélébile comme tu dis, dans ta psyché, dans ton parcours de toute façon émotionnel et psychologique, hein, c'est sûr.
Je pense que c'est ça. Et tu disais, tu parlais de support. Et oui, comme enfin, il n'y avait pas grand chose à ajouter sur le support. Tu me posais la question. Simplement, il y avait des films, vraiment des scènes comme ça que j'utilisais, mais c'était beaucoup, vraiment beaucoup de l'imagination. C'est par exemple, j'utilisais le genre scientifique, tu vois, enfin le genre scientifique des expériences, par exemple, qui auraient été faites sur
D'accord.
moi. Ce genre de choses.
Et tu l'érotises après avec ton imagination, d'accord.
Voilà.
Donc ça a commencé quand tu étais au collège ?
Ouais.
C'était quelque chose que tu arrivais un petit peu à définir par toi-même ? Est-ce que ça te paraissait être ta sexualité et okay, on est OK avec ça ? Est-ce que tu avais l'impression que c'était un peu out of box par rapport à ce que tu imaginais qui existe dans les imaginations de tes petits camarades. Est-ce que tu te positionnais ou pas du tout ?
Je crois que j'avais du mal à me positionner. Je pense que j'avais du mal à exister, en fait. Donc, elle était très cachée, en tout cas, c'est sûr, parce que je me voyais pas... Je m'imaginais, en fait, que mes copains, se masturbaient en pensant à des femmes, la plupart, généralement. Et du coup, pour moi, c'est comme si ça n'existait pas. Enfin, c'est comme si la mienne de masturbation, elle ne pouvait pas exister. Je crois que...
Tu ne t'autorisais pas,
en tout cas. Du coup, je ne m'autorisais pas Ouais, c'était inimaginable de la partager. Enfin, de la partager, ouais, de partager ce...
Oui, en tout cas, oui, cette excité, bien sûr, ouais.
Et, ouais, du coup, c'était vraiment mon truc et ça...
Mais t'as fait déjà un super chemin de pouvoir en parler aujourd'hui.
Ouais, clairement.
Non, mais c'est extraordinaire. En 10, 12 ans, parce qu'on est à peu près voilà, 14 ans à ce moment-là, tu vois, en 12 ans, aujourd'hui à 26 ans, mm-hmm. c'est extraordinaire d'être capable d'en parler et de recul qui a déjà été fait dessus. Tu dois te féliciter de ça, parce que c'est déjà une grande preuve de compréhension et d'empathie vis-à-vis de toi-même.
Mm. Ouais. Mm. Et ça me tient à cœur d'essayer de... il y a des sexualités et c'est un petit cœur d'en parler parce que aussi il y a peut-être des gens qui ont vécu la même chose en fait ou des choses très différentes mais qui s'éloignent de la norme entre guillemets et qui du coup se sont toujours sentis bizarres à cause de ça, donc ça me tient à cœur d'en parler pour ça aussi.
Mais t'as raison, et je pense que ça fait du bien d'entendre parler, voilà, des choses un peu atypiques qui peuvent, en tout cas, enfin, dans l'atypisme, en tout cas, qui sortent, voilà, d'un chemin qui a été normé par qui, par quoi, on ne sait pas. Mais je sais pas si t'as écouté les épisodes avec Erwan, qui sont les derniers sortis. Et Erwan a fréquenté pendant longtemps le milieu BDSM, où il rencontrait dans des clubs et dans des soirées des gens qui avaient vraiment des vecteur d'excitation qui était assez improbable et complètement hors norme, notamment, et on en rigole presque parce que tellement ça paraît absurde, mais il y avait ce mec qui donc était fétichisme des chaussures, notamment des semelles de chaussures de bottes, et en fait ce qu'il faisait kiffer, c'est que tu lui il demandait, en tout cas dans les gens qui fréquentaient les mêmes clubs que lui, de leur raconter où ils avaient marché, dans quelle rue, sur quels insectes ils avaient marché. Mais c'est ça qui le fascinait, c'était de voir toutes les niches qui existent de ces sexualités qui sont très peu représentées et dont on parle finalement très peu. Et au-delà de la sexualité, de la pratique, c'est vraiment le vecteur d'excitation.
Mmh, ouais.
Donc voilà, donc on en reparlera peut-être après. Donc là, on est... et donc on arrive doucement mais sûrement à un âge, alors je ne sais pas qui s'approcherait en tout cas de tes premiers rapports à deux, alors sans forcément parler de rapports sexuels, mais tu commences peut-être là à sortir un peu plus avec des jeunes gens.
Tu veux dire genre au lycée?
au lycée ou après, je ne sais pas comment ça s'est défini pour toi.
J'ai commencé à comprendre petit à petit donc que j'aimais les garçons. Ça a mis du temps, mais c'est venu tard, on pourrait dire, mais bon, c'est subjectif. Vers 18 ans, et c'est en emménageant en fait, c'est en quittant la maison pour faire mes études à 18 ans que j'avais envie d'explorer quoi. Je me suis autorisé en fait à exister comme homme homosexuel à partir de 18 ans en arrivant à Paris et du coup c'est là que j'ai testé des trucs quoi, enfin j'ai commencé à parler, j'avais commencé un petit peu avant au lycée à parler à des garçons sur internet. Je regardais déjà du porno parce que j'avais eu un ordi dans ma chambre au lycée, donc j'avais déjà regardé du porno. Donc en arrivant à Paris, j'ai pu tester un peu. Puis, enfin, donc c'est sur internet en fait que j'ai rencontré des garçons. C'était plus facile en fait. Enfin, ça a toujours été facile pour moi l'ordinateur. Et ça me permet de...
Du coup, tu dois être content là, comme ça. En mode interview confiné. Je comprends, mais alors du coup, quand tu as voulu rencontrer ces garçons, c'est parce que donc tu voulais te prouver que tu étais gay ou c'était déjà sûr pour toi?
C'était déjà sûr avant que j'arrive à Paris, avant que j'essaie. Je pense que j'étais sûr. J'en suis moins sûr aujourd'hui, mais on en parlera plus tard. j'étais catégorique, quoi. Comme à 18 ans, on est catégorique et on a envie d'un truc à la fois. Donc, j'avais vraiment envie de tester parce que c'était pour grandir, pour avancer, parce que. À cet âge-là, on se met pas mal de pression aussi sur il faut que je couche vite parce que j'ai 18 ans.
Donc justement, à 18 ans, c'était pas te prouver que tu étais gay, ça c'était ok, mais c'était plutôt te libérer, même si voilà, ouais. Je fais exprès de choisir ces mots-là, mais te libérer de ta virginité parce qu'il fallait passer le cap, que tu étais majeure, t'arrivais à Paris, la vie de grand. Et donc ouais, là, c'était carrément. Plus voilà, pour cocher cette case-là. Donc, tu rencontres des garçons sur Internet. Comment ouais. ça se passe, la première rencontre?
Alors, la première rencontre, c'était avec un couple, en plus.
Ne faisons pas les choses
je
à moitié.
Je faisais pas les choses à moitié. Hein. Et donc, en plus, qui n'était pas dans mon quartier ni dans ma ville, ce qui a donné une situation où genre, je leur parlais juste sur Internet, sur un site de caméra. Je les ai rencontrés sur un site de caméra. Et du coup, je me suis retrouvé sur un coup de tête à aller prendre mon train le vendredi soir après les cours, aller les voir dans une ville de province, une grande ville, et elle me retrouvait là-bas sans trop savoir pourquoi ni comment j'y étais.
T'es pas t'aventurier parce que
bah je le suis par moment, je l'étais en tout cas. Et mais ça s'était super bien passé.
D'accord, donc tu arrives chez eux, c'est des gens, c'est un couple d'hommes qui a ton âge, qui est un peu plus âgé.
Je crois qu'ils avaient 24 ans.
Oui, ça va, ça reste là. Oui, t'es pas tombé sur des messieurs d'une soixantaine d'années.
Non, non.
ça va, c'est déjà ça. Et ok, donc du coup, ça se passe entre vous comment parce que là, pour le coup, c'est la première fois, à part ton corps à toi, que tu ouais. vas toucher un corps d'homme nu, que tu vas voir d'autres hommes en érection qui sont en vrai devant toi. Comment tu le vis, tout ça?
Avec de l'alcool.
Ok. Il faut boire avec modération, bien sûr. Hein.
Bien sûr. ouais, à l'époque, je m'étais dit, ok, il faut que je boive, parce que c'était quelque chose qui m'aidait déjà pour d'autres sujets, tu vois, pour les soirées, etc. Ça m'aidait beaucoup à me détendre, enfin, à être moins timide, ce genre
d'accord.
de choses. En fait, ça s'est fait assez doucement avec eux. Enfin, comment dire, ça s'est fait graduellement. On a passé un week-end ensemble. On a fait les choses tranquillement. On est allé au cinéma. Enfin voilà, on a mangé ensemble. C'était cool. Simplement, du coup, je voulais boire. Eux, ils voulaient pas spécialement. Moi, j'étais en mode ah oui, il faut que je boive. Ça ne va pas du tout. ce moment où t'as 18 ans, t'essaies de contrôler les choses et
bien
du
sûr,
coup tu. T'as beau boire, de toute façon, ça changera rien puisque t'es complètement stressé. Mmh. Et du coup, au final, ils étaient super bienveillants. Enfin, ils m'ont dit, voilà, tu fais ce que tu veux. En plus, ils m'avaient laissé une chambre, tu vois, pour moi tout seul.
Enfin, t'as été bien reçu, quoi.
Voilà, j'étais bien reçu. Je me sentais en sécurité. Mmh. Et voilà, ça s'est bien passé. Enfin, est-ce que je saurais les détails? Je ne sais plus. Je crois que j'ai été fougueux.
J'ai été fougueux. Mais est-ce que tu... bon, déjà, c'est chouette que tu sois tombé sur un couple sympa et, tu vois, et de jeunes et qui comprenaient un peu la situation. Tu leur avais dit que c'était ta première fois?
Oui, je pense. Ouais.
D'accord.
Ouais. Bah, l'intérêt avec Internet, c'est que tu... T'as pas de barrière, enfin, comment dire. C'est aussi pour ça qu'avec Internet, j'ai beaucoup parlé à des garçons sur Internet, parce que j'avais pas de filtre, en fait, sur Internet, et tu peux dire tout sans te prendre la tête. Tu te dis, t'as pas honte que ce soit ta première fois, t'as pas honte de parler de choses plus de sexe, plus moins vanilla. Donc tu peux en parler, tu vois, sur Internet, parce qu'il y a l'écran pour te protéger, quoi. Parce que...
C'est ça. Je comprends.
Ouais.
Ok, donc ça c'est ta première fois. Donc ça y est, tu coches la case, tu reprends ton train dans l'autre sens. Et là commence ta vie active avec d'autres hommes. Donc tu es à Paris. Est-ce que tu vas toujours utiliser les sites et les applis de rencontre tu vas un peu dans des endroits ou pas spéciaux? Mais en tout cas, est-ce que tu...
J'ai mis du temps à rencontrer des garçons sans passer par Internet. Ça a pris du temps.
Mm-hmm.
C'est venu après par des amis, etc. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais pas spécialement de lien avec des garçons. Donc c'était plus par Internet, ouais. Ça a été pas mal de... C'est une époque où... où t'as envie d'être en couple en fait le plus vite possible. Enfin, en tout cas, j'avais envie d'être en couple le plus vite possible. Il fallait que je me développe sentimentalement, que je me développe sexuellement. Et
t'avais jamais été amoureux jusque-là.
Ouais, j'avais jamais été amoureux et du coup, je faisais des rendez-vous, mais qui n'avaient pas vraiment de sens. Enfin, comment dire, à chaque fois, c'était une catastrophe. Donc, il y a eu un peu de ça. Et du coup, le sexe, c'est resté compliqué, en fait. C'est resté quelque chose de... Ça arrivait une fois de temps en temps, il me fallait que je me motive, il fallait que je me fasse violence, en fait, vraiment. Ah ouais. Fallait que je me donne du courage pour oser aller voir tel ou tel garçon, quoi.
Mais pourquoi ? Parce que c'était pas forcément synonyme de plaisir pour toi ? Qu'est-ce qui te freinait dans l'idée d'aller justement, entre guillemets, faire du sexe ?
Je pense que c'est beaucoup, c'est pas mal la confiance en les autres en fait et la confiance en moi. Mm-hmm. C'est que je pense que j'ai beaucoup de mal à donner ma confiance aux gens, comme on peut le voir ici, puisque je suis en train de parler à ce quoi.
Non, mais en plus, il faut expliquer qu'en plus, c'est un exercice qui est important aussi dans ton parcours personnel, mm-hmm. de pouvoir te livrer, etc. Et puis, c'est jamais pareil, une voix, l'inconnu, enfin, le cadre, bon, là, même si on n'est pas face à face, mais le cadre, etc., ça, c'est très différent parce que il y aura un début et une fin à notre discussion. Donc, donc du coup, moi, ma question par rapport à ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est est-ce qu'il y a aussi une dichotomie entre ce que tu allais faire avec ces hommes dans l'intimité, c'est-à-dire un rapport plus ou moins entre guillemets attendu, même si après tu mettais les fioritures que tu voulais, mais en tout cas, ça restait un rapport entre guillemets lambda entre deux hommes, versus ce que toi tu as dans la tête et ce qui te plaît, ce qui t'excite et tes vecteurs d'excitation qui sont pour le coup loin d'être vanilla.
Voilà.
Est-ce qu'il n'y avait pas aussi, enfin, je me demande, est-ce qu'il n'y avait pas cette. C'était compliqué à gérer
C'est compliqué à gérer encore aujourd'hui, donc ouais, clairement c'est en plus c'est quelque chose que je m'autorise pas spécialement à faire parce que j'ai jamais trouvé les personnes avec j'ai jamais été dans une relation assez longue pour et assez de confiance pour me dire ok, on peut tester ça. Ce qui fait que il y a eu pas mal de rapports vanilla qui m'ont laissé de marbre. Enfin, on peut pas. J'ai eu beaucoup, mine de rien, de rapports sexuels qui m'ont laissé de marbre.
D'accord. C'est-à-dire que physiquement, ça ne t'atteint pas ou c'est émotionnellement, ça ne t'atteint pas ? Tu as quand même une érection, tu arrives quand même à éjaculer, etc. ou même pas ?
Non, pas toujours. Ça dépend des moments. Après, c'est quelque chose qui s'est développé. Il y a eu des grandes périodes de désert, comme on dit, où j'ai vu aucun garçon, ni couché avec aucun garçon pendant un an, peut-être deux ans, des choses comme ça, où je me disais... tu vois, c'était des moments où je me disais, je laisse tomber. Je fais ma petite branlette journalière et... et puis, tu fais autre chose, quoi. Tu te concentres sur autre chose et du coup, t'y penses pas spécialement, la routine, quoi. Enfin, on dit souvent que l'appétit vient en mangeant, c'est pareil pour le sexe, et on le dit aussi.
Ah ouais, je pense que t'as raison. Ouais, complètement.
Donc, quand t'y arrives pas, ouais, il y a des moments où tu laisses tomber, quoi. Il y a des moments où j'ai laissé tomber, où je me suis dit que c'était trop compliqué, peut-être aussi, tu vois. Des moments où tu te dis que tu dis que tu vas attendre que le prince charmant tombe du ciel pour avoir une vie sentimentale et sexuelle épanouie et parfaite avec lui.
Mais justement, c'est quoi qui te fait le plus vibrer ? C'est une harmonie sexuelle parfaite ou une relation sentimentale et amoureuse ? Bah, évidemment, tu ne peux pas me répondre les deux. Mais qu'est-ce qui te dans la balance aujourd'hui, enfin, c'est quoi qui domine ?
Je dirais que le sentimental est plus important, mais...
D'accord.
Parce que... Le sexe, c'est quelque chose dont je peux me passer, en fait. Enfin, je peux... Parce que je suis pas encore j'ai l'impression de pas y avoir goûté, pas avoir goûté au vrai sexe, en tout cas pour moi.
Une sexualité épanouie pour toi, oui.
Voilà, j'ai l'impression d'avoir jamais eu une sexualité épanouie. Et que ça pourrait être encore le cas pendant un temps, tu vois. Mais que une vie sentimentale, bah, c'est quelque chose de, je pense que c'est quelque chose d'incroyable et que ce serait plus important, tu vois, dans ma vie. Mais bon, c'est négociable.
Donc, tu peux avoir un peu des deux, t'inquiète, ça existe.
Ouais.
Ok, donc d'accord, donc tu as ces rapports avec ces garçons qui te laisse de marbre, en tout cas, sont pas extraordinaires et exceptionnels. T'as eu beaucoup d'amants sur cette période-là?
Donc, on est sur une période de 7 ans. Je dirais une vingtaine, trentaine. C'est pas... Ouais, c'est...
Non, mais ne t'inquiète pas, il ne faut pas définir.
Ouais, j'allais commencer, tu vois, je me suis retenu.
tu n'as pas à le commenter, vraiment pas.
J'allais commenter.
T'appartiens et chacun après en fait ce qu'il veut. ok, donc tu avais mis aussi, quand on en a discuté, un mot moi, qui est sorti du lot, tu m'as mis rapport rémunéré. Qu'est-ce que ça veut dire rapport rémunéré? C'est-à-dire que tu as toi-même payé ou tu as été payé?
J'ai été payé. Et c'est ce que tu vois, j'y pensais parce que tu parlais du fait que ça me laisse de marbre, et en fait ça me laissait de marbre. Du coup je me suis dit, moi qui étais étudiant et qui n'arrivais pas, qui galérait dans ses études, qui commençait à voir l'argent manquer, tu vois, tu te dis, vu que le sexe ça me laisse de marbre et que j'ai pas l'impression d'être spécialement attiré ou d'être spécialement
ni dégoûté ni voilà, attiré ni peu importe, hein.
que les gens me dégoûtent pas, que du moment que le mec est comment dire bienveillant, bah que c'est ok, enfin tu vois que ça se passe bien, bah j'en suis venu à chercher, à me dire bon, bah tant qu'à faire autant l'utile à l'agréable. Mais c'était presque l'utile et l'utile, parce que c'était comme une mission que je me donnais, tu vois, c'était mission réussir mon épanouissement sexuel.
D'accord, donc du coup t'as cherché des potentiels clients.
Voilà, il y a des sites en fait, comme j'avais vu sur un site où je faisais des rencontres, j'avais vu qu'il y avait une section escorte, j'avais commencé à y traîner, tu vois, j'avais commencé à regarder, et c'est là que du coup j'ai rencontré un garçon très très gentil, et que j'ai pris mon courage à deux mains pour le rencontrer, quoi.
Et est-ce que tu connais la motivation de ce garçon qui souhaitait lui payer un rapport sexuel?
D'avoir de l'attention et juste d'avoir un joli garçon pour
à
lui,
ses côtés,
quoi.
Ok.
Clairement, c'est quelqu'un que j'ai fréquenté pendant... de manière sporadique pendant des années, jusqu'à encore récemment. Je l'ai vu il y a quelques mois. Donc ces derniers temps, pas rémunéré, mais...
T'es devenu pote avec ton client, quoi.
Ouais, on est devenu pote. Pote est un bien grand mot, parce que on se voyait pas souvent quand même. On se voyait pas souvent, c'était plus quelque chose qui venait par phase en fait.
C'était ton amant à chaque fois?
Ouais.
Okay.
Il y en a eu d'autres entre deux, enfin il y a eu d'autres histoires, mais lui revenait régulièrement. Et en fait, je sais pas trop. Enfin, ça m'a pas aidé en fait. Je pensais que ça m'aiderait. À me développer, enfin, comment dire, à
oui, à appréhender ta sexualité différemment, oui.
Ouais, parce que je pouvais en parler avec lui, de rapport dominant-dominé, je pouvais en parler avec lui.
Et puis en plus, ce qui est intéressant dans ces rapports tarifés, c'est que après chacun met le curseur où il veut, hein, qu'il soit payé ou qu'il paye, et après chacun est différent avec ça, mais on est encore dans un rapport de soumission, de domination.
Ouais.
Donc
oui.
Effectivement, ça peut faire écho aussi toi à ce qui te plaît, et en tout cas ta recherche sur ces sujets-là.
Ouais.
Donc tu pouvais parler avec lui justement de tout ça.
Ouais, on pouvait en parler, et il y a eu, on a essayé des choses. Enfin, il y a une fois, particulièrement une fois où on a essayé plus de choses. Enfin, vraiment, il y a eu, oui, il était vraiment dominant. Je sais pas si ça m'a vraiment aidé en fait globalement à mon épanouissement sexuel parce que je crois que je l'ai jamais vraiment fait confiance et je m'en suis rendu compte que récemment, enfin que c'est quelqu'un vers qui je revenais régulièrement mais qui me faisait pas grandir en fait, j'avais pas l'impression de faire plus confiance qu'avant, pas beaucoup plus en tout cas, pas assez.
Aujourd'hui, tu penses quoi ? T'aurais besoin d'un genre de mentor ou de Pygmalion qui t'initie à tout ce, enfin voilà, toute cette type de sexualité et en qui tu as une confiance aveugle, c'est ça ?
Je sais pas si c'est possible pour moi la confiance aveugle, mais mais voilà.
Le lâcher prise.
T'as dit quoi ? Ah, lâcher prise.
Le lâcher prise, le fameux. On est en train de tous expérimenter en confinement, hein, clairement. On apprend à lâcher prise.
Ouais, clairement.
Non, mais je comprends ce que tu dis. Puis en plus, après, selon les gens, selon la façon dont tu es construit, souvent la confiance et le lâcher prise va de pair avec du sentiment.
Ouais.
Donc c'est vrai que ça peut demander du temps aussi. Alors, j'avais eu un invité qui s'appelle Alan, qui lui a ton âge, je crois. Et a vraiment été dans le BDSM avant d'être en couple avec sa partenaire encore actuelle. Et lui était domi, et c'est vrai que ça pouvait lui arriver, en tout cas quand il fréquentait ce milieu-là, d'avoir des expériences avec des gens qu'il rencontrait dans la soirée. Mais c'était excessivement codifié, c'était dans un lieu précis, c'était avec les codes précis, et les gens étaient vraiment tous déjà très initiés, donc tu pouvais... les soumis et les domis pouvaient se lâcher entre eux, même s'ils ne se connaissaient pas quelques heures auparavant. Mais après, voilà, je pense qu'effectivement, pour faire ses premiers pas dans ce domaine-là, avec en plus, toi, ton bagage intime et personnel, c'est peut-être, peut-être que tu as besoin d'être d'une grande confiance avant. Ouais. Donc ça a duré combien de temps, ces rapports rémunérés ?
Je l'ai fréquenté pendant 5-6 ans. 5 ans. Très peu. On s'est vu assez peu au final. On s'est vu une dizaine, quinzaine de fois en tout.
Ok. Et question bête, combien ça coûte ? C'est à l'heure, c'est ça ?
Non, on passait. Enfin, notre façon de faire, enfin sa façon de faire, et moi ça m'allait, c'était de se voir, de prendre l'apéro, discuter, aller au restaurant, et rentrer chez lui, et puis dormir chez lui, en fait.
D'accord. Et donc, tu passais la soirée, slash nuit.
150 euros.
150 euros. Et il te payait le resto ?
Ouais.
Ok. Et il y avait un rapport à chaque fois ?
Ouais, quasiment.
Ok.
Il y a eu des moments où, j'avais des blocages. Et je pense que je m'écoutais pas, en fait. Enfin, encore une fois, je m'écoutais pas et j'y allais quand même. Et j'essayais quand même. Et je me disais, bah mince, ça a pas marché, j'avais pas envie. Et du coup, on annulait. Enfin, on annulait. Parfois, c'était arrivé qu'il me paye quand même.
Sinon, t'avais un avoir, tu sais. Il faut revenir. Ouais. Non, mais après, c'est intéressant parce que ça, bon, même si effectivement il y avait un rapport un peu particulier instauré entre vous, ce monsieur, enfin cet homme, en tout cas, a été plutôt intéressant dans ton parcours.
Ouais, très. Mais je pense que ça parle beaucoup d'autodestruction, je pense, tout ça. Enfin, en voulant essayer absolument, tu finis par. Parce que je pensais que ça me faisait rien, en fait. Parce que je pensais que c'était pas grave, que...
Que ça paraît très compliqué que ça ne te touche pas et que ça ne fasse rien. Il y a sûrement chez toi, en tout cas, des mécanismes de protection qui vont justement te faire penser que ça ne te fait rien, que ça ne te touche pas, que ça ne t'atteint pas.
Oui, c'est une forme de trouble dissociatif, en fait. J'ai une sorte de dissociation affective. Et,
entre ce que tu ressens et ce que tu vis.
Voilà. Et, du coup, oui, ça mène à des rapports complètement autodestructeurs, en fait, dans la sexualité. Et en même temps, j'en avais peur. C'est-à-dire, j'en avais peur mais je me donnais pour mission de me développer sexuellement, donc je me retrouvais dans des situations où je comprenais pas ce que je foutais là, et où je ne savais pas dire non, parce que pour ne pas dépasser, pour pas exister, pour pas vexer, pour pas tout ça.
Donc des rapports sans un consentement absolu, quoi.
Voilà, il y a eu des rapports sans consentement absolu, des fois où j'ai pas su dire non, des fois où je me suis retrouvé chez des mecs, et d'ailleurs il y a eu un rapport de domination où une fois je me suis retrouvé chez un mec à le sucer pendant qu'il m'appelait fiston et qui s'auto-appelait daron, et que moi je savais pas dire,
monsieur.
J'étais même pas capable de dire de me dire dans ma tête, bon, bah, je vais peut-être y aller, moi.
Peut-être prendre son sac, on va se parer. Mais justement, quand tu te retrouves dans des situations comme ça, est-ce que tu arrives à sur le moment, hein, parce que j'imagine qu'après coup, oui, puisque tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mm-hmm. mais est-ce que tu arrivais à l'intellectualiser sur le moment présent, te dire est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, est-ce que c'est ok, mm-hmm. est-ce que c'est pas ok, est-ce que tu es capable, même dans un rapport physique, de décider?
Bon, en tout cas, à l'époque de ce rapport-là avec le daron, ça devait être il y a 4 ans, mm-hmm. 4-5 ans, et à cette époque-là, non. Enfin, j'ai laissé cette espèce de. Une fois dans l'acte, et puis dans la vie en général, une fois dans une situation sociale, et d'autant plus quand c'est une situation sexuelle, il y a vraiment cette espèce de flou où je me pose des questions dans ma tête, mais c'est plus du « Ah, qu'est-ce que je dois faire pour... » Tu vois, cette espèce de peur de vexer toujours, essayer de calculer tout ce que je fais pour...
Oui, c'est au-delà de vexer, c'est cette peur d'exister par toi-même.
Ouais, cette peur d'exister et de... Du coup, qui fait que ça devient un espèce de flou de « Bah, finalement, j'ai qu'à rester, de toute façon, je m'en fous. » Enfin, tu vois, où c'est pas si grave. Genre, c'est pas grave, donc je vais rester, c'est pas grave, je vais continuer, etc. Donc c'est très spécial. Enfin,
ouais, il y a un vrai sujet d'affirmation de soi à bosser, quoi.
Ouais.
Et justement, là, on arrive à peu près à aujourd'hui. T'en es où aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est un peu plus détendu. J'arrive à... Parce que j'ai plus maintenant des rapports où je suis capable de dire « Ok, là, j'ai envie d'un rapport. Ça peut être du vanilla. » Et si le vanilla m'ennuie, bah je sais dire « Ok, le vanilla m'ennuie, je me casse, je dis stop. »
D'accord.
D'ailleurs,
ça, c'est déjà super.
J'ai eu que des rapports vanilla récemment, je crois.
Mais c'est déjà génial d'arriver, tu vois, savoir ce que tu aimes, à le verbaliser et à quitter une situation dans laquelle tu te sens pas bien.
Ouais.
Et ton rapport aux hommes, il est comment aujourd'hui? Parce que tu disais tout à l'heure, c'est resté dans un coin de ma tête. Tu disais, je suis plus très sûre. Donc c'est quoi? C'est que tu as le sentiment que tu aimerais avoir des relations sexuelles avec les femmes?
Ah, je pensais que tu voulais parler du fait que, enfin, tu veux du rapport à la peur en fait aux hommes. Mais
ça peut être lié tout ça.
Tout ça est lié, ouais, clairement. Tout ça est lié. Mais
donc revenons
c'est
d'abord
plus que je veux
ça.
Pas quoi, je suis pas aussi catégorique qu'avant en fait, c'est que je trouve ça beau en fait, juste l'amour entre humains, donc un homme, une femme,
ou l'entre deux,
personne de tous les quelques genres qu'elle soit, je trouverais je trouverais ça moche de me fermer à ça, et je me sens pas attiré sexuellement par les femmes, mais ça me donne envie quand même, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais...
Non, mais je comprends, t'as cette définition un peu de la pansexualité, mm-hmm. où tu te sens capable de tomber amoureux de quelqu'un, quel que soit son genre, mm-hmm. homme, femme, binaire, non-binaire, intersexe, enfin, que sais-je, et en même temps, après, la sexualité suivrait. Quels que soient les organes génitaux.
Voilà, c'est les organes génitaux, je trouve pas que ce soit important.
Alors, ça peut servir quand même.
Ça peut...
après, non mais en chacun est libre, évidemment. Mais d'accord. Mais alors, c'est quoi justement, revenons là-dessus, c'est quoi cette peur des hommes? Tu arrives pareil à définir un peu? Parce que c'est très particulier. Enfin, c'est très particulier d'avoir peur des hommes et d'être attiré par les hommes.
Ouais, c'est assez difficile à définir. C'est que il y a l'attirance physique. Et plus que par les hommes, c'est une espèce d'attirance physique pour la virilité, en fait. Enfin, donc, ça peut être la virilité de n'importe quel genre.
Mm-hmm.
Mais par contre, la peur, cette espèce de fait que je ne peux pas leur faire confiance, en fait. Je mets beaucoup plus de temps à faire confiance aux hommes qu'aux femmes. Ouais, je pense que les hommes m'ont trop fait de mal, en fait, et que du coup c'est compliqué et c'est un travail en cours, c'est un work in progress.
Les hommes, quand tu dis les hommes, c'est-à-dire les gens de ta famille?
Ouais, de la gens famille, autour de toi. Et puis les années collège, lycée, après peut-être un peu moins, après c'était un peu moins le cas, c'était de l'autodestruction. Mais
peut-être. D'accord, que comme tu es un homme finalement.
Voilà. Okay. Donc du coup, aujourd'hui, c'est encore compliqué. Et c'est encore très... Comment dire pour avoir un rapport, c'est tout un processus cognitif, quoi. C'est toute une préparation dans ma tête pour avoir un rapport sexuel. C'est est-ce que... Dans quelle disposition je suis? Est-ce que je suis détendu? Est-ce que je suis pas détendu? Est-ce que j'ai trop peur? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je me force? Est-ce que je... Donc c'est encore comme ça aujourd'hui, quoi. Il y a encore beaucoup d'angoisse liée à ça, quoi.
Oui, après, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui tu te poses ces questions-là et en tout cas tu te mets un peu plus au centre de tes besoins,
ouais,
par rapport à il y a quelques années.
Mmh, ouais, clairement.
Donc, le travail. Et sur justement, alors on va un peu creuser ça, mais sur la partie tes fantasmes de soumission, de BDSM, mm-hmm, est-ce que tu arrives, sans évidemment tu dévoiles ce que tu as envie de dévoiler, mais est-ce que tu arrives un peu plus à les identifier, à les catégoriser? Est-ce que c'est un peu plus précis aujourd'hui pour toi?
Ouais, alors pour définir un petit peu, maintenant que j'arrive mieux à le définir, puisque c'est beaucoup du lâcher prise, en fait, c'est beaucoup du... de l'ordre du contrôle, tout simplement. C'est pas la douleur, c'est pas le fait de plaire, bon, peut-être un petit peu, mais c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment le fait de pouvoir lâcher prise, pouvoir laisser le mm-hmm, contrôle à quelqu'un et d'essayer de faire confiance à cette personne, puisque tu...
Oui, de confier les ouais, rênes de ta personne, ouais, totale.
Ouais.
Et complète à quelqu'un d'autre.
Ouais. D'accord. Ce qui est inimaginable pour une personne comme moi.
je l'entends.
Donc ça reste des fantasmes la plupart du temps.
D'accord. Mais du coup, ça donne quoi? C'est-à-dire que tu rentres dans les schémas de. Alors après, peut-être que ça parlera à certains ou pas du tout. Ça surprendra d'autres. Mais est-ce que c'est vraiment les fantasmes de devenir un homme objet? Donc dans une table, dans un coin, hein, ou un fauteuil, ou.
oui, je connais ça. Je connais ça.
Ouais, ouais.
Non, ça c'est bof.
C'est pas ce rapport d'abandon?
Non, pas celui-là. Celui-là, il est... D'accord. Je sais pas, c'est pas très... Je m'ennuierais, en fait, si j'étais une chaise.
ok, non, mais alors du coup, c'est quoi? Enfin, c'est, encore une fois, tu
ouais, ouais,
c'est difficile, un fantasme, parce que c'est souvent c'est vraiment du sensoriel, mais quel schéma, ou en tout cas, quel scénario, toi, c'est quelque chose qui paraît...
C'est plus le scénario de maître esclave que de...
Okay.
Que d'objets ou de... J'aime pas non plus tout ce qui est pup play.
Tu peux préciser ce que c'est?
Le pup play, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le jeu du chien et du maître. C'est le soumis se met dans la peau d'un chien. Et donc, il parle ou pas, ça dépend des pratiques. Le maître lui donne des ordres variés.
C'est ça.
Voilà, ça, c'est pas quelque chose qui m'attire, mais plus le côté... être attaché, être restreint, ce genre de choses.
D'accord.
Que je trouve... qui m'attire, en tout cas, dans mes fantasmes. Donc, mais entre fantasmes et réalité, je ne sais pas où...
Oui, ah bah ça...
Où on tombera.
Ça, c'est toi qui... Oui, c'est ça, mais c'est toi qui sais si tu as envie de le réaliser ou pas. Mmh. Est-ce que rentre aussi le cordage, le bondage, le shibari, les choses comme ça?
Le shibari en tant que tel, vraiment en tant que ça me je trouvais ça intéressant, mais plus intéressant sur le plan presque thérapeutique en fait. Je trouve que c'est un exercice super, c'est un exercice fou, mais je sais pas si ce serait extrêmement extrêmement excitant pour moi. Je mmh. Érotique oui, mais ce serait pas mon, c'est pas mon fantasme principal quoi.
D'accord.
Ce serait pas mais ouais, le bondage oui. Il faut toujours que ce soit au sein de ce rapport dominant-dominé, quoi. Je pense que c'est vraiment le rapport dominant-dominé qui m'intéresse le plus.
D'accord. Et tu as songé, bah, au-delà de... Alors, effectivement, de le fantasmer, d'y réfléchir, mais est-ce que tu t'es déjà renseigné pour potentiellement aller dans des endroits où on pratique ce genre de sexualité?
Pas vraiment. Un petit peu. Ça, je m'y suis beaucoup intéressé, quand même. J'en ai beaucoup parlé oui. à des gens. Moi, j'avais vraiment introduit, ou alors le peu qu'on m'a introduit, j'étais, je me suis, la carapace était, s'est remise quoi. donc c'est plus des choses que j'ai testées avec des garçons par-ci par-là. Genre, tel garçon, je me sens à l'aise. On pourrait tester ça, donc on teste ça. Est-ce que ça se passe bien? Oui, non. Mais j'ai pas vraiment. J'ai pas réussi à foncer la tête la première dans une communauté.
Ouais.
J'ai
oui,
un peu bah, du mal avec que... ça.
Oui, puis je pense qu'effectivement, il faut du temps, il faut que tu te sois déjà bien avec toi-même, ouais, il faut que tu te prouves à toi-même aussi, parce que dans cet exercice de lâcher prise et cet exercice de soumission, il y a aussi la rencontre avec soi. Parce que souvent, on se dit que le dominé, enfin, que le dominant a le pouvoir sur le dominé et que c'est lui qui peut lui faire ce qu'il veut, etc. Mmh. Mais pour avoir interviewé certains hommes qui ont pratiqué, que ce soit en dominant ou en dominé, je vais y arriver, souvent ils disent, ils sont assez unanimes sur le fait que c'est le soumis en fait qui a le pouvoir, parce qu'il se connaît bien et parce que c'est lui qui va pousser les limites du dominant. Alors après on pourra en discuter des heures, hein, parce qu'en ouais. fonction des pratiques, en ouais, fonction oui, des cercles, etc., ça change beaucoup. Mais c'est vrai que le don de soi que fait le soumis au dominant, pour justement le laisser entre guillemets ouais. maître de sa vie, alors ça fait, c'est un grand mot, hein, mais en tout cas maître de ce moment-là, dans la souffrance, dans la douleur, dans l'attente, dans l'abandon de soi, dans ouais. le plaisir, enfin etc.
C'est lui qui va poser les limites quoi.
C'est vrai, et c'est le soumis qui pose les limites. Donc, mmh. d'une certaine façon, c'est lui qui a le pouvoir sur l'autre. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Après, j'imagine que quand on va dans cette direction-là, que ce soit le soumis ou le dominant, il faut savoir se maîtriser et se connaître. Et mmh. je pense qu'effectivement, ça va être peut-être l'étape intermédiaire entre ton fantasme et la réalité de ce fantasme. Ce sera peut-être ça qu'il va falloir travailler un peu ces ouais, prochains c'est... temps.
Ah bah, c'est vraiment le... Ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est un peu, je recommence un peu à zéro dans un sens, mais c'est parce que avant je m'écoutais pas du tout en fait. Donc
et tu sais un peu ce qui a été le déclic de ça, de cette prise de conscience?
C'est venu avec le temps en fait, comme je tu sais, vers entre 18 et 20 ans, on se pose pas beaucoup de questions. Ça dépend pour qui, hein, bien sûr. Mais souvent, entre 18 et 20 ans, on a envie de profiter, de faire tout ce que font les étudiants. On a envie de faire des soirées, de coucher avec, qui on a envie. Et puis, puis, c'est avec le temps, on se pose des questions. On commence à se dire, tiens, je me sens différent là. Pourquoi, comment? Et à force de poser des questions tout le temps, bah, tu finis par... si t'as de la chance, si tu finis par aller chez le psy, et c'est en allant chez le psy en fait que tu fais un vrai travail là-dessus, et sur c'est là que j'ai commencé à me dire tiens, et si j'existais en fait, et c'est le moment où j'ai réalisé que je m'autorisais pas à exister, c'est là que ça a changé.
Bah, ce qui est extraordinaire, c'est que tu as commencé déjà ce chemin entre guillemets aussi jeune, parce que tu n'as que 26 ans. Pour ça tu dois être fière de toi et te dire merci Alban, merci. C'est déjà super. Là, on a brassé le présent. Qu'est-ce que tu te souhaites justement pour le futur, même si effectivement ta réflexion, enfin, En tout cas, ta réflexion est assez logique, donc amène en tout cas sur un futur où tu seras plus en phase avec toi-même, j'imagine.
Ouais.
Mais qu'est-ce que tu te souhaites ?
Comme tu le dis, le premier objectif, c'est vraiment de vraiment me connaître, de vraiment m'autoriser à exister avec mes fantasmes, avec mes envies, et les connaître, parce que je ne connais pas toutes mes envies, j'ai du mal à les connaître. Et puis, avec ce nouveau bagage, de pouvoir faire de nouvelles rencontres et aller vers les gens, en fait. Parce que jusqu'à maintenant, comme j'ai du mal à faire confiance aux gens et encore plus aux hommes, si c'est avec ce nouveau bagage que je pourrais, c'est en travaillant là-dessus que je pourrais rencontrer des mecs bien, quoi. Des mecs ou pas, d'ailleurs, du coup. Mais... Rencontrer des gens.
Ouais, rencontrer des gens. Et dans ta vie, justement, amicale, comment est-ce que tu arrives à faire confiance aux gens ?
Oui, mais j'ai tendance... En fait, j'ai des espèces de moyens de me tenir tout le temps à... de me protéger, tu vois, enfin, d'être tout le temps à distance, de... Ouais, il y a des murs, quoi, entre moi et mes proches, il y a toujours des murs...
Et de quoi tu as peur en fait à l'idée de te livrer auprès de tes amis ?
Je pense que c'est encore la même chose, c'est la peur d'exister, parce que la peur d'être rejeté en fait, c'est la peur du rejet ou de l'abandon. Je ne saurais pas exactement définir laquelle c'est, parce qu'il paraît qu'elles sont différentes. Mais alors...
Est-ce que tu as lu les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ?
Ouais, voilà. Voilà, je l'ai pas lu, j'ai peut-être regardé une vidéo puis j'en ai parlé avec un ami, il y a un ami avec qui on parle beaucoup de ce genre de choses.
Il faut absolument que tu lises ce livre. C'est un livre qui a été écrit par Lise Bourbeau. Donc c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, et elle va expliquer toutes ces blessures là qu'on ressent en tant qu'enfant, jeune enfant, même parfois avant. Alors voilà, mais après, les blessures sont très intéressantes à comprendre, puisque chacune des blessures, qui sont la trahison, l'injustice, l'abandon, l'humiliation et le rejet, on va avoir en réaction un masque qu'on va nous-mêmes avoir en fonction de cette blessure qui en soit, et qui va nous mettre dans des situations et dans des contextes de réaction qui nous empêchent de guérir de cette blessure. Donc je t'invite, et j'invite les gens qui sont sur ce chemin-là, à lire ce livre qui est assez intéressant. Encore une fois, on en fait ce qu'on veut. Donc du coup, tu te souhaites ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure cet épisode ?
J'y ai pas pensé. J'y ai pas réfléchi. Alerte. Restez curieux. Mais peut-être que quelqu'un l'a déjà dit, ça. La curiosité, je pense que c'est le truc le plus important dans la vie. En plus, c'est un peu banal comme message, mais c'est vrai, quoi. Enfin,
je suis d'accord avec toi.
Être curieux de soi, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et tout ce sur quoi on peut travailler, tout ce qu'on peut encore apprendre sur nous-mêmes. Et puis tout ce à quoi on peut s'ouvrir, en fait, du monde.
Ok, écoute, merci Alban
pour cette discussion. C'était un plaisir.
Merci pour votre écoute, et merci à Alban pour sa sincérité et son honnêteté. C'est toujours un peu difficile de se livrer, et je souhaite à Alban tout le meilleur du monde et de trouver enfin... les réponses à ces questions. Merci à vous pour votre soutien, vos messages toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux et par mail. C'est vraiment chouette de pouvoir partager avec vous pendant cette période de confinement. En plus, on a plus de temps les uns avec les autres, donc c'est vraiment intéressant. Je prépare pour cet été des épisodes un peu spéciaux de questions-réponses avec des invités qui sont déjà passés dans On The Verge. N'hésitez pas à m'envoyer par mail sur contact@ontheverge-podcast.fr vos questions, ou en DM sur les réseaux sociaux du podcast. De toute façon, j'ai fait un petit épisode, vous avez un nouveau message qui explique tout ça, donc n'hésitez pas à l'écouter. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.